Shem lui a dit, tu as bien fait d'ajouter un jour. Il y a encore une autre chose que Moshe Rabbeinu a faite, mais on ne va pas entrer là-dedans. Le Maharal explique que on nous donne ici un enseignement fondamental quant à la Kabbalat HaTorah. Le Maharal dit, ça veut dire que la réalité de la Torah, elle est définie non pas par celui qui donne la Torah, mais par ceux qui la reçoivent. Et bien qu'effectivement le 50e jour était un jour où la Torah, du point de vue d'Hachem, pouvait être donnée, devait être donnée même, mais les Mekablim, ceux qui ont reçu la Torah, n'étaient pas prêts. C'est Moshe Rabbeinu a décidé qu'on n'était pas prêt. Les Chachamim disent dans Rashi le ramène que le dévoilement d'Hachem qu'il y a au moment de Matan Torah ressemble à ce qui se passe quand le Khatan va à la rencontre de la Kala dans un mariage. Si on peut dire comme ça, quand il va dans sa direction, il est d'une certaine manière mashpia, c'est-à-dire il va pour lui donner quelque chose. Or, on sait très bien que l'acte de Kiddushin ne peut se faire que si c'est l'homme qui donne quelque chose à la femme. Dans l'autre sens, ça ne marche pas. Or, Israël, au moment du Sinaï, au moment du Matan Torah, n'a pas été dans la position de la Kala qui reçoit des Kiddushin sans avoir une part au don lui-même. Parce que la Gemara le dit, en fait c'est sur un passouk que Nefesh HaRaim, Prime de Vologine, explique comme ça. Il y a un passouk dans le Navi Yeshaya qui dit « Va'asim dvari, je vais mettre ma parole, beficha dans ta bouche. Ve'tzel yadik isiticha, linto ha-shamayim, misod ha-aretz, lemor le-tzion, ami yata. » Pour dire à Tzion, Tzion c'est Yerushalayim, tu es mon peuple. Et la drasha sur Ami Ata, Ami ça s'écrit Ain Mem Yud, les Chazal disent, Al Tikre Ami, Ela Imi. Ne lis pas Ami, lis Imi, avec moi. Qui s'écrit aussi Ain Mem Yud. Simplement, on a une tradition que dans le verset du Navi, Yeshaya, il faut lire Ami. Et les Chachamim viennent et disent, on peut aussi lire Imi, et nous on va rendre compte de la lecture avec Imi. Parce que Imi, ça ressemble à des versets de Shir HaShirim, bien sûr. Ou entre Hachem et le clan Israël, c'est cette relation d'amour, en fait, où effectivement, le clan Israël est appelé Rayati. Rayati, c'est construit sur Réa. Réa, c'est le mot qu'on traduit en français par le prochain. On dit Véa Aftal Réacha Kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est Réacha, ton Réa. Rayati, c'est ma prochaine. Et la drasha là-dessus, c'est que Hachem considère que le clan Israël est comme une kala, et ça va crescendo. Il dit ensuite, il a appelé le clan Israël Achoti, ma sœur, et même Imi, ma mère. Comme dit Chazal, Lozaz mi mechavevan, Hachem a tellement aimé le clan Israël, il aime tellement le clan Israël qu'il monte dans tous les degrés d'amour, en fait. Et même dans Shir HaShirim Rabba, dans le Midrash sur Shir HaShirim, le Midrash interprète Rayati comme Mefarnasati, comme celle qui me nourrit, en fait. Donc, ça fait apparaître le clan Israël comme nourrissant, si on peut parler comme ça. Avinu Shebashamayim. Hachem, Akadosh Baruch Hu. Donc, dans le Zivug, dans le lien marital entre le clan Israël et Akadosh Baruch Hu, ça va dans les deux sens. Bon, parce que si c'est le clan Israël qui nourrit la Kadosh Baruch Hu, c'est la Kala qui donne au Khatan. Or, dans les Kiddushin, si on fait des Kiddushin comme ça, si un homme et une femme faisaient des Kiddushin de cet ordre-là, la femme n'est pas Mekoudeshet. Il n'y a pas de mariage. Et donc, dire qu'il y a là des noces mystiques, si vous voulez, entre le clan Israël et Akadosh Baruch Hu, alors que ça ne fonctionne pas vraiment sur le modèle des noces au sens ordinaire du terme. C'est un peu un problème. Alors, le problème, il se résout un peu de la manière suivante. Dans le Zohar et à d'autres endroits, on dit de Moshe Rabbeinu qu'il était Baala de Matronita, ou bien Baala de Shrinta, était le mari de la grande dame, le mari de la Shrina, de la présence divine dans le monde. Donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu, par rapport à celui qui donne la Torah, il apparaît dans un rapport de mari vers sa femme. Mais le mari, c'est Moshe. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui est l'épouse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu avait en quelque sorte repris la main dans Matan Torah. Je vous avais expliqué un petit peu pratiquement la même chose, mais avec d'autres mots. J'avais expliqué que le clan Israël, il a été créé pour être l'associé d'Hachem. Pour être un associé, on doit être actif. Or, le clan Israël, au début, en tout cas, il est totalement passif. Nous ne sommes sortis d'Égypte que, comme le Zohar dit, qu'avec ce qui s'appelle Aruta de Leila. C'est-à-dire, tout a été fait d'en haut vers le bas, dans la sortie d'Égypte. C'est Hachem qui nous a sortis d'Égypte. Et même le peu de mérite qu'on avait, c'est Hachem qui nous l'a donné, en quelque sorte. C'est lui qui nous a soufflé, en quelque sorte, que pour sortir, il faudrait un peu de mérite, et que le mérite, on ne peut l'avoir qu'en faisant la Mila et en faisant le Korban Pessah, l'agneau pascal. Donc, il a tout fait. Seulement, ça s'entend dans l'enfance. Non, le clan Israël, il est censé grandir. Il y a un moment où le clan Israël doit faire quelque chose par lui-même. Et la deuxième étape après la sortie d'Égypte, ce qui est le couronnement en réalité de la sortie d'Égypte, où on est vraiment devenu libre, c'est Matan Torah, c'est le don de la Torah. Mais tel que c'était parti, Hachem va donner la Torah, C'est même Hachem qui nous a prescrit comment il fallait se purifier pour pouvoir la recevoir. Donc là, l'Israël était totalement passif. Moshe Rabbeinu ne voulait pas ça. Si vous voulez, c'est pas des fantaisies de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a compris que c'était pas comme ça que ça devait se faire. Je vais vous expliquer pourquoi. La première mitzvah que les Bnei Israël ont reçue avant même de sortir d'Égypte, c'est la mitzvah d'Achod et Chazé Lachem. C'est la mitzvah de sanctifier, c'est-à-dire de déterminer le premier jour du mois. Et ça, ça se faisait par témoignage de deux témoins qui venaient à Yerushalayim et qui témoignaient avoir vu la nouvelle lune. Donc, comme vous savez, la nouvelle lune, c'est un croissant très, très fin. Alors évidemment, il fallait vérifier qu'ils n'avaient pas confondu avec un nuage, etc. Donc il y avait un interrogatoire de ces témoins. De toute manière, le tribunal, lui, il avait calculé la possibilité. Ça se calcule, donc le moment de le molad, le moment où on peut voir la nouvelle lune. Donc il savait si ce que les témoins disaient, c'était possible ou pas. Et on leur demandait où ils l'avaient vu, où était la courbure, etc. Pour bien être sûr que ce qu'ils ont vu, c'était vraiment ça. Et si c'était admis que, voilà, ils ont vu, alors le chef du Sanhedrin proclamait, voilà, aujourd'hui c'est le premier du nouveau mois. Le premier jour du nouveau mois. Et donc, le cas échéant, le mois d'avant avait 29 jours. Parce que ce qui aurait été le 30e jour est devenu premier du nouveau mois. Et si personne n'est venu, ou si les tribunaux, le tribunal a jugé que c'était pas bien, ou pour une raison ou une autre, il pouvait aussi décider d'ignorer ça, parce que, pour des raisons techniques, alors, on laissait l'ancien mois avoir 30 jours et on proclamait premier jour le 31e jour, en quelque sorte. Deviendra premier du nouveau mois. Ça, c'est la première mitzvah que les Bnei Israël ont reçue avant même de sortir d'Égypte, en fait. C'est la mitzvah d'une certaine maîtrise du temps. Nous avons des rendez-vous avec Hachem, ça s'appelle des moadim. Les fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est des rendez-vous avec Hachem. Comme je vous ai dit, ces rendez-vous-là, celui de Pessah et de Sukkot en particulier, mais indirectement celui de Shavuot, sont des rendez-vous qui sont fixés avec une date du calendrier. C'est le 15. Mais qui dit quand tombe le 15? C'est les Bnei Israël. Hachem nous a dit que c'est nous qui allons décider quand commence le nouveau mois. Donc c'est nous qui allons dire quand est le premier. Donc c'est nous qui disons quand est le 15. Donc ça veut dire que le rendez-vous que le clan Israël a avec Hachem, c'est un rendez-vous dans lequel le clan Israël n'est pas convié à un rendez-vous qui a été unilatéralement décidé par Hachem. Mais Hachem nous a donné la possibilité d'être partenaire dans la fixation du rendez-vous. Bon, puisque c'est nous qui allons dire quand tombe le 15 en question. Donc Hachem dit, ça sera le 15, et nous on dit, quand sera le 15. Donc mon cher Abounou a entendu que la première mitzvah qu'Hachem donne au Bnei Israël, c'est une mitzvah dans laquelle ils vont être associés à Hachem. Ils sont associés au point que les rendez-vous qu'Hachem donne au clan Israël sont aussi des rendez-vous, d'une certaine manière, que le clan Israël donne à Hachem, puisque le clan Israël est en position de décider quand ça aura lieu. C'est sur ce même modèle que Moshe Rabbeinu a ajouté un jour, pour que les Bnei Israël soient partie prenante dans le don de la Torah, pas seulement dans la réception de la Torah, puisque c'est nous qui avons fixé la date du don de la Torah. Alors on peut dire Zman Matan Torateinu. Parce que chez nous, ce n'est pas seulement Kabbalat à Torah, c'est aussi Matan Torah. Nous étions partie prenante dans la décision, dans l'acte de donner la Torah. C'est nous qui en avons fixé la date. Donc c'est ça le, si vous voulez, C'est ça que Moshe Rabbeinu a compris, c'est ça que Moshe Rabbeinu a voulu imposer, c'est pour ça qu'il a ajouté un jour. Ce n'était pas pour qu'on soit plus pur que pur. Ça n'existe pas. Et Hachem lui a dit, tu as bien fait. Pourquoi il lui dit que tu as bien fait? Tu as bien fait parce que tu m'as montré que tu avais bien compris ce qu'était la mitzvah. Parce qu'on pourrait dire la mitzvah, c'est la mitzvah, point barre. Mais le sens de la mitzvah, de la première mitzvah qui est donnée au Bnei Israël avant même qu'ils soient sortis d'Égypte, ils sont encore formellement esclaves de Paro à ce moment-là. Puisque formellement, ils ne seront libérés par Paro que quand il leur a dit « Partez, vous êtes libres, je vous libère. Je vous chasse en même temps, mais je vous libère. » Et ça, il ne le dira que plus tard. Il ne le dira que le soir de Makat Bechorot, quand il voudra obtenir que Moshe Rabbeinu intercède pour qu'Hachem arrête de tuer les premiers-nés égyptiens. Et Moshe Rabbeinu lui a dit, j'intercéderai quand tu auras libéré les Bnei Israël. Il lui a fait répéter après lui que moi, Paro, Melech Mitzrayim, d'Égypte, je libère les Bnei Israël de leur condition d'esclaves, ils sont libres, je n'ai plus de droit sur eux. C'est seulement à ce moment-là que nous sommes libres. On n'est pas complètement libres, parce que comme vous le savez, ils nous ont poursuivis, ils ont voulu nous récupérer, et que dans la tête non plus on n'était pas complètement libres, jusqu'à Shavuot, jusqu'à Matan Torah. Pas en contrepartie.
Pour aller vers Hachem.
Oui, oui, oui.
On peut dans cette journée. Alors pourquoi dit-on que le fait que la montagne était retournée sur le peuple d'Israël, c'était une contrainte, puisque tout le monde était d'accord, en fait.
Les Bnei Israël, ils étaient d'accord d'accepter la Torah écrite. Mais la Torah orale, ils n'étaient pas d'accord. Tout le travail qui va avec la Torah orale, ils n'étaient pas d'accord. La Torah écrite, s'asseoir à la synagogue et écouter la lecture de la Torah, hein. Big deal. C'est pas terrible, quoi.
Donc là, on parle de la Torah écrite?
Non, on parle. Kabbalat HaTorah, c'est la Torah orale. Mais Hachem a donné les deux en même temps. Mais sur l'une, il a dû mettre une contrainte. On a fixé le jour, mais Moshe Rabbeinu voulait qu'on sente qu'on n'a pas seulement la main du rendez-vous, il voulait qu'on ait la main dans le Matan Torah, dans le don lui-même de la Torah. Donc il a voulu que ce soit explicite, que c'est nous qui sommes partie prenante, si on veut, dans ce don-là. On est aussi avec celui qui donne. Lui, il donne, Hachem donne, mais nous, on fixe le moment où il donne. C'est ça le sens de ce que le Maharal a dit, que ce sont les récepteurs de la Torah qui fixent le Matan Torah réellement. Ça s'est exprimé par le jour supplémentaire que Moshe Rabbeinu a introduit. D'une certaine manière, ici, c'est justement la Torah Shebaal Peh qui se fait jour. Parce que qu'est-ce que c'est que la Torah Shebal Peh? La Torah aura la Torah qui est produite par la bouche des Chachamim. C'est-à-dire, c'est que les récepteurs de la Torah renouvellent, ils font des chidushim, ils comprennent certaines choses à leur manière, avec une compréhension humaine, seulement humaine. Et ça, ça vient s'ajouter en quelque sorte à la Torah. La Torah, elle vient et elle est entendue par les récepteurs. Ils l'entendent comme on entend les choses, c'est-à-dire chacun entend avec ce qu'il est. Vous entendez chacune ce que je raconte là, à votre manière, avec ce que vous êtes. Ça résonne en vous de telle ou telle manière, en fonction de ce que vous êtes, de ce que vous avez appris, des expériences de votre vie, etc. Chacune reçoit la chose à sa manière. Cette diversité, elle n'est pas contraire du tout à la Torah. C'est ça la Torah orale. Il y a des enseignements qui viennent de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est un petit-fils de converti. Donc il amène, si vous voulez, on peut presque dire on dirait aujourd'hui du métissage dans le clan d'Israël. D'accord ? Vous avez le grand Hillel, il avait deux maîtres, Shemaïa et Aftalion, qui étaient tous les deux des convertis. Ça veut dire que la génération avant Hillel, elle a été dirigée par deux personnes converties. Deux étrangers convertis à la Torah. Je ne sais pas si aujourd'hui ça se pourrait, mais en tout cas, à ce moment-là, on pouvait le faire. Rabbi Meir, lui aussi, a converti. Les plus grands noms sont les convertis. Donc cette idée d'avoir le droit d'ajouter un jour à ce qui est écrit dans la Torah c'est marqué Ayom ou Machar. Vous allez vous purifier aujourd'hui et demain. C'est Hachem qui parle. Arrive mon cher Rabbeinu, il dit j'ajoute un jour. Alors, il n'a pas ajouté n'importe comment. C'est construit sur... Je vous dis juste un peu, vous comprenez un peu comment c'est construit. Dans le texte, c'est marqué « Hayom ou Machar » aujourd'hui et demain. Quand Hachem a parlé et qu'il a dit « aujourd'hui », alors disons que c'était 11 heures du matin. D'accord ? Alors, l'aujourd'hui, il n'aura pas 24 heures. D'accord ? Mais le demain sera 24 heures. Le demain, il sera complet. D'accord ? Alors, mon cher Rabbeinu a compris que, puisqu'il devait y avoir un jour complet, c'est-à-dire peut-être qu'il faut que les deux jours soient complets. Et comme aujourd'hui n'est pas un jour complet, alors on ne le compte pas vraiment. Et on va compter demain, le aujourd'hui et le demain va commencer seulement demain, parce qu'il est trop tard dans la journée aujourd'hui pour commencer à compter cette journée-là. Alors, on n'est pas du tout obligé de lire comme Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu n'a pas ajouté un jour sans s'appuyer sur rien du tout. D'accord ? Il a fait une dracha, il a interprété le texte. C'est une interprétation dont il fallait être Moshe Rabbeinu pour le faire, probablement, pour oser le faire. Mais, bon, quelqu'un comme Rabbi Akiva, il pouvait aussi faire une dracha de ce genre-là. Ça, pendant la période des Tanaïm, des maîtres de la Mishnah, on pouvait faire ce genre de drachat. Après, c'est fermé, on ne peut plus. Ce n'est pas qu'on nous a interdit, mais c'est que les maîtres de l'époque ont compris qu'ils n'avaient pas le niveau de le faire. Ils se sont auto-censurés parce qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas à la hauteur de faire ce genre de choses. Donc, dans la démarche des récepteurs de la Torah, en ayant ajouté un jour de plus, ils se trouvent, ils ont mieux préparé pour recevoir la Torah. On pourrait dire, le mieux préparé veut dire que c'est plus facile d'accepter une Torah dans laquelle on est partie prenante. Quelque part, j'y suis pour quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a obligé complètement, ce n'est pas quelque chose d'étranger à moi, qu'on a plaqué sur moi. D'une certaine manière, c'est un peu ce que je veux, c'est moi qui ai décidé que ça sera ce jour-là. Donc, ce n'est pas à partir de rien, ce n'est pas nous qui avons décidé que la Torah sera donnée, mais c'est nous qui avons décidé qu'elle sera donnée ce jour-là. Donc, c'est comme si on disait, oui, demain je pourrais. Comme quelqu'un qui dit, on lui demande de faire quelque chose de difficile, donc, aujourd'hui je ne peux pas, mais demain je le ferai. Pourquoi demain c'est mieux, des fois c'est pas mieux, etc. Mais là, en l'occurrence, c'était important que ça soit demain, pour que les Bnei Israël aient vraiment ajouté quelque chose. Et donc, ils aient fixé, ils aient changé. On ne pouvait pas, si vous voulez, si on avait pu n'agir que sur l'heure, par exemple, ça aurait pu marcher aussi. Si on savait que Hachem voulait donner la Torah à 10 heures et que Moshe Rabbeinu ajoute une heure, ça marcherait exactement de la même manière. Parce que l'important étant de montrer que nous sommes partie prenante. Mais comme la préparation était de 2 jours, alors on a ajouté 1 jour. Si la préparation avait été de 2 semaines, on aurait ajouté 1 semaine. Vous comprenez? C'était l'idée de, on va ajouter quelque chose qui est du même ordre. On va pas, mon cher Abel, il n'a pas dit, ok, alors, mais pour que nous recevions la Torah, il faut qu'on s'entraîne tous parce qu'on pourra la recevoir seulement en faisant le poirier. Ça n'a pas de sens, c'est-à-dire... C'est rien du tout que ça veut dire que tu vas le recevoir de cette manière-là. Il n'y a pas autrement. Par contre, puisqu'Hachem a donné en quelque sorte le timing en termes de jour, alors Moshe aussi a donné le timing en termes de jour. Mais pas dans une posture ou un truc comme ça. C'est marqué que... Bon, entre autres, ce qui est écrit explicitement dans la Torah, c'est qu'ils ont cessé pendant ce temps-là d'avoir des relations conjugales. Donc, ils ont vérifié la pureté de leurs actions, de leur comportement. Ils ont vérifié qu'ils avaient eu le temps de faire un travail intérieur de purification. Comme vous vous préparez pour Kippour, ou comme vous vous préparez, chacun fait sa manière. Bon, passer en jugement, alors. Celui-là, il se prépare comme ci, l'autre, il se prépare comme ça.
Et ça, ça appartient à l'homme. Parce qu'on ne peut pas imaginer que si Hachem a donné ce temps-là, c'est de l'estimer qu'on était suffisant.
C'est ce que j'ai dit au début. Oui. Hachem a décidé que 2 jours de purification nous mettaient dans un état de réceptivité maximale. Et quand Moshe Rabbeinu a ajouté 1 jour, on n'est pas devenu plus pur que pur, parce que ça n'existe pas. Donc c'est pour autre chose que Moshe Rabbeinu a ajouté un jour. Il a ajouté 1 jour qu'on présente comme 1 jour de purification. On pourrait réfléchir, on ne peut pas faire ça maintenant, mais on pourrait réfléchir pour savoir pourquoi on appellerait procédure de purification ce jour qu'il a ajouté, qui en fait est 1 jour pour faire en sorte que les Bnei Israël soient partie prenante. Bon, c'était ça qu'on voulait. Alors, pourquoi est-ce que ça peut s'appeler temps de purification? Puisqu'il a ajouté 1 jour de purification. Donc, il faudrait réfléchir à ça. Je vous laisse ça pour la prochaine fois.
J'ai encore un an.
Non, chaque fois, c'est dans... Qu'est-ce que vous en savez?
Je serai en train de me préparer.
vous pensez? Je vous laisse encore un an? Comme ça, comme ça. Alors maintenant, il s'agit de comprendre un peu qu'est-ce que c'était cette Torah de Rabbi Akiva. Ça veut dire que Rabbi Akiva a dévoilé des profondeurs de la Torah qui n'ont pas été dévoilées par Moshe Rabbeinu à Moshe Rabbeinu. Ça veut dire, on a dit que bien que Moshe Rabbeinu à l'école de Rabbi Akiva ne savait pas de quoi parler Rabbi Akiva. Néanmoins, ce dont il parle s'appelle Torah de Moshe. C'est la Torah de Moshe, c'est Alaha Moshe Misinai, c'est la Torah de Moshe. Pourquoi ? Parce que ce que Moshe Rabbeinu a dévoilé, c'est la possibilité d'accéder à la racine du flux de la Torah, en quelque sorte. Il a dévoilé que nous pouvions avoir accès à la Torah, non pas seulement comme récepteur, mais on a accès à la Torah du même côté que le donateur. Donc c'est comme si on avait accès à la source de la Torah, puisque on est du côté de celui qui donne la Torah. C'est ça que Moshe Rabbeinu a dévoilé, en ajoutant un jour. Donc même si... Oui.
Le côté donateur, c'est le tribouché.
Non, mais le côté donateur, c'est la source de la Torah, puisqu'il est du côté de celui qui donne la Torah.
Mais quelque part, le Talmud Raham, il se donne et il le redonne.
Alors, pour l'instant, avant de parler du Talmud Raham comme tel, on parle de Moshe Rabbeinu lui-même. D'accord ? Tu as raison, le Talmud Raham fait ce travail-là, mais il ne peut le faire que parce que Moshe Rabbeinu l'a fait en amont. C'est seulement parce que Moshe Rabbeinu nous a montré qu'on pouvait arriver à la Torah par en haut, en quelque sorte, et pas seulement par en bas. Pas seulement en essayant de comprendre quelque chose. D'accord ? En partant de, voilà, je comprends ça, et je comprends un peu plus, et un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Ça, c'est notre démarche à nous, standard. La démarche de ceux qui ont reçu la Torah, et qui l'étudient pour comprendre un peu mieux, qui essaient de comprendre le pourquoi du pourquoi, mais qui ne savent toujours pas le pourquoi du pourquoi du pourquoi, etc. Et petit à petit, on arrive là où on arrive. Et Moshe Rabbeinu, il a voulu que nous soyons du côté de celui qui donne la Torah, du côté d'Hachem, si on veut. Donc on est comme Hachem par rapport, et Hachem c'est la source de la Torah. Donc on est du côté de la source, c'est ça que Moshe Rabbeinu a montré. L'invention de Moshe Rabbeinu, c'est ça. C'est ça cette folie, en quelque sorte, de mettre l'homme quasiment associé d'Hachem. On n'est pas associé quand on est seulement le récepteur de ce que fait le donateur. On est associé seulement si on est aussi du côté du donateur. Tu comprends ?
Est-ce que ça voudrait dire que l'homme crée la Torah ?
Oui.
Oui,
Il y a même des femmes qui créent la Torah.
Oui, j'entendais ça quand on parlait des parts en dessous. Là, oui, mais la part en dessus, c'est...
Oui, ça c'est... Si vous voulez, c'est... Si, c'est pour ça que j'ai fait un chiot là-dessus. Le par en dessous, vous savez ça depuis longtemps. Est-ce que le Maharal dit, en fait, cette chose-là que Moshe Rabbeinu a dévoilé cette possibilité-là. Donc, même ce que Moshe Rabbeinu n'a pas reçu Bepoal, ça veut dire concrètement il ne l'a pas reçu. C'est pas contenu dans ce qui a circulé dans la besace de Moshe Rabbeinu quand il est descendu avec la Torah. C'était pas dans sa besace, cette chose-là. Mais il nous a ouvert un accès à la Torah vue d'en haut. Parce qu'il a montré que sans les Mekablim, il n'y a pas de Torah. Donc c'est-à-dire que ce qui est resté en haut, en fait, a besoin pour exister en tant que Torah d'être reçu. Donc tout ce qui est dans la main de celui qui donne, dans la main d'Hachem, si on peut parler comme ça, est là aussi comme en suspens dans son état de Torah. Pour devenir Torah, bon, il faut mettre des guillemets à ce que je raconte là, mais pour devenir Torah, Hachem a besoin que nous acceptions sa Torah. Si nous ne l'acceptons pas, alors elle n'est pas Torah. Parce que la Torah, elle est faite pour être dans ce monde-ci. La Torah au ciel, c'est inutile d'une certaine façon. C'est le but de la Torah, c'est de descendre aussi profondément que possible dans la réalité la plus réelle, la plus matérielle. Donc, Moshe Rabbeinu a permis cette façon d'appréhender les choses. Bien que ce qu'il a permis est resté d'une façon, d'une certaine manière, en potentiel. C'est une potentialité que quelque chose qui est encore dans la main d'Hachem puisse devenir Torah. C'est suspendu à l'acceptation par l'Ebné Israël. Si vous voulez, c'est très 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 proche de ce qu'on a dit sur le monde, sur la création du monde. Il y a création du monde, mais s'il n'y a pas l'utilisation de ce monde par l'Ebné Israël pour servir Hachem, et il n'y a pas d'autre utilisation de ce monde pour servir Hachem que la Torah. Donc s'il n'y a pas d'acceptation de la Torah, alors Hachem dit, bon, je remets le monde dans son état de chaos. C'est la même chose. D'une certaine manière, cette Torah, tant qu'elle n'est pas descendue dans le monde, elle n'est pas Torah. Alors, ce n'est pas le chaos, parce que ça reste très haut auprès d'Hachem. Mais ça reste comme une potentialité, et, si vous voulez, c'est comme si, à la limite, si la Torah n'était pas vraiment acceptée, s'il n'y avait pas des gens comme Rabbi Akiva, etc., Hachem n'aurait pas pu, il n'y aurait pas de sens à ce qu'il y ait un monde. Ce serait un monde qui n'aurait pas la possibilité de servir Hachem. Donc un monde dans lequel les êtres humains ne pourraient pas dire « Le monde a été créé pour moi. » Le monde n'a pas été créé pour eux, point barre. Le monde a été créé pour moi, pour que je le mette au service d'Hachem. Mais c'est vrai, il faut d'abord que je comprenne que c'est pour moi, parce que moi j'ai besoin, comme j'ai dit au début, de tout le monde pour servir Hachem. Là aussi, Moshe Rabbeinu a descendu la possibilité pour l'homme d'accéder à la Torah par en haut, si on peut parler comme ça. Et donc, Zman Matan Toratenu, comme nous le disons, au lieu de Zman Kabbalat Toratenu, parce que ça montre que le lien entre Israël et la Torah est un lien de celui qui donne la Torah à la Torah, et pas seulement celui qui la reçoit. Et c'est vrai que le degré de Naase Venishma, etc., c'est une chose extraordinaire, les premières Luchot, etc., on a perdu tout ça avec la faute du Vaudor, mais à Shavuot, il s'est passé quand même quelque chose. Il s'est passé cette chose-là, que nous sommes passés du côté du donateur de la Torah et nous ne sommes pas restés du côté de celui qui la reçoit. Alors c'est vrai, il nous manque cette lumière du Sinaï concrète. On l'a perdue, ça. Ça, on l'a pas. On a... Alors, notre association au Matin de Torah, elle est imparfaite, c'est vrai. Elle n'est pas riche de toute la lumière qu'elle avait au moment de l'événement, enfin, la situation Sinaï. Enfin, Hachem, avec tout le son et lumière, etc., qu'il y avait à ce moment-là, toute cette proximité, tout ça, on l'a perdu, c'est vrai. Là-bas, c'est de l'énergie, si vous voulez, qu'on a perdu. On a perdu cette énergie, là, on l'a pas, on l'a plus. Ça, c'est, d'une certaine manière, définitivement perdu, jusqu'à la fin des temps. Mais parce que nous sommes encore aujourd'hui du côté du mari, en quelque sorte, du côté de celui qui donne, alors, il était possible que Rabbi Akiva dévoile une Torah qui n'avait pas encore été concrètement dévoilée dans le monde par Moshe Rabbeinu. Pourquoi ? Parce que on n'a pas perdu complètement le lien avec cette Kabbalat HaTorah. Sauf que ça n'a pas été concrètement aussi loin que ça aurait dû. On s'est cassé la figure avant. Quand Hachem a montré à Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva, je vous ai dit, Moshe Rabbeinu s'est exclamé, il a vu la torture, il a dit Zou Torah, Vezou Schara, c'est une Torah pareille et une torture pareille. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est supportable? Comment est-ce que c'est un scandale? Or, on sait que la Torah de Rabbi Akiva est donc enracinée dans celle de Moshe Rabbeinu. C'est parce que Moshe Rabbeinu a dévoilé cet accès-là que Rabbi Akiva peut faire ce qu'il a fait. Ça veut dire, encore un mot juste sur ce qui s'appelle Alachan Moshe Mitsinaï, c'est la possibilité, encore une fois, d'avoir accès à la lumière de la Torah qui est au-dessus des moyens ordinaires de traiter la Torah, de développer la Torah que nous avons. Et là, Alachan Moshe Mitsinaï ne fait pas l'objet d'une discussion. On ne peut pas discuter là, la Moshe Mitsinaï. Elle n'a pas été donnée par Moshe comme le reste de la Torah. Tout ce que Moshe Rabbeinu a donné a été donné au clan d'Israël avec la possibilité la mitzvah de le développer, c'est-à-dire de le discuter. La halakha de Moshe Mitsinaï, elle n'a pas été donnée telle qu'elle par Moshe Rabbeinu. Donc la halakha de Moshe Mitsinaï, c'est indiscutable. C'est comme un verset explicite. C'est-à-dire, même les versets explicites sont plus discutables. Même un verset comme « tu ne tueras pas », il a besoin d'explication. Il y a quand même une situation où on tue. Dans la guerre, on tue, par exemple. Et en légitime défense, on tue. Etc. Donc, c'est pas absolu, tu ne tueras pas. Bien que dans le texte, c'est marqué « tu ne tueras pas », point barre. Mais comme tout dans la Torah, ça fait l'objet de... Il faut discuter la chose, Il faut se poser les questions, il faut regarder qu'est-ce que je peux apporter, un éclairage, etc. D'ailleurs, ou une réflexion. Il y a aussi le bon sens, il y a toutes sortes d'éléments qui jouent dans ces réflexions-là, dans nos réflexions sur tout le texte, même sur un texte aussi, aussi court et aussi succinct, mais aussi explicite, semble-t-il, que le Tu ne tueras pas. Alors, comme vous savez, on a étendu le Tu ne tueras pas. On a réduit, parce qu'on a permis de tuer pendant la guerre, dans certains cas, de tuer en légitime défense et d'autres situations. On peut tuer quelqu'un, par exemple, si vous avez une personne qui est poursuivie par quelqu'un qui veut la tuer ou qui veut la violer, etc. Et vous pouvez empêcher que ça se fasse. Alors, si vous pouvez l'empêcher sans tuer l'agresseur, alors faites-le. Mais si on ne peut l'empêcher, on ne peut sauver la victime qu'en tuant l'agresseur, on doit tuer l'agresseur. On ne va pas se dire, j'ai deux personnes. Non, lui, il a permis, en prenant cette attitude-là, il a permis qu'on le tue. Il a tort. Un agresseur, ça, sur le moment, pas après, mais au moment où il agresse, et au moment où je ne peux pas empêcher l'agression de se faire, sauf à le tuer, j'ai le droit de le tuer, j'ai le devoir de le tuer. Donc c'est toutes les situations où on transgresse le lotir tsar, le tu ne tueras pas. Mais on ne transgresse pas, parce que la halakha, elle aménage ça. On sait dès le départ que c'est comme ça qu'il faut le lire, il faut le lire avec ces restrictions-là, impérativement. On ne peut pas faire comme si ces questions-là n'étaient pas obligatoirement à traiter. Si, on est obligé de traiter ça. On ne peut pas faire abstraction de situations concrètes dans lesquelles on va automatiquement se trouver. L'alakha al-mashim ici, là, c'est autre chose. C'est comme si on avait... Là, c'est... Ça ne fait pas l'objet d'une discussion, parce que ça n'a pas été proposé à la discussion. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, comme chaque année, je répète que tout ce qu'on a raconté là, c'est très très bien sur Shavuot, mais l'essentiel, c'est le gâteau au fromage.